BFM Business et Tech & Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Et un grand bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Évidemment, bon week-end, vous le savez, De quoi je me mêle. C'est votre rendez-vous tech de la fin de la semaine que vous pouvez retrouver dès le vendredi en exclu, en podcast audio, mais aussi en vidéo sur la chaîne YouTube. Et puis après, tranquillement le week-end, diffusé sur BFM Business Radio Télé. Merci d'être là, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Avec au sommaire de ce De quoi je mêle, eh bien toute l'actualité de la semaine. Et vous savez quoi, non pas un module, mais deux modules d'actu. On va se faire plaisir avec nos spécialistes que je vais vous présenter dans un instant. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. Merci encore une fois d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et donc le club de la presse IT, x2, Nicolas Lelouch est avec nous cette semaine. Salut Nico.
Salut François, ravi d'être ici.
Trop longtemps.
C'est vrai que ça fait quelques temps, on s'est peut-être pas vu depuis le CES.
Et j'en ai bien l'impression.
Et ben, je suis très content d'être de retour dans De quoi je me mêle aujourd'hui, en bonne compagnie en plus.
Voilà, l'un des piliers de Numérama, Nicolas Lelouch.
Je ne le reconnais pas sur son Apple Vision Pro.
Tu le reconnais pas?
Non, mais j'ai des petits yeux, non.
La marque du masque.
Tiens, le Vision Pro, tu t'en sers toujours ou pas? Ou est-ce qu'il est rangé dans le tiroir?
Je m'en servais tout encore après le test. Le truc, c'est que je l'ai prêté à mes confrères de Frandroid qui sont en train de sortir.
Donc là, il est en train de faire le tour de toutes les rédactions.
En toute sincérité, je fais pression depuis 10 jours pour le récupérer.
Reviens.
Parce qu'il y a des mises à jour là qui arrivent, non?
Il y a potentiellement des bonnes mises à jour qui vont arriver dans les prochaines semaines et j'espère le récupérer cet après-midi, au moment où on enregistre, peut-être demain, peut-être lundi. Mais bon,
pour te replonger
dedans. Si tout va bien. Ça va pas tarder à être de nouveau le mien.
Et oui, on remercie encore Nico qui nous avait apporté le masque. C'était dans Tech & Co. Quelques jours après sa sortie aux États-Unis. Olivier Frigara, comment ça va, camarade?
Ça va bien, merci de l'invitation.
Voilà, Olivier, on refait le Mac, qu'on ne présente plus. La référence en termes de podcast dédié à Apple. Puis pas que ça, maintenant tu fais de la F1 aussi. Enfin, il y a toute une...
Je suis un peu tout seul aussi, il faut dire.
Une industrie du podcast. C'est l'industriel du podcast.
Oui, la F1, c'est ma grande passion.
C'est ta grande passion.
Avec le Mac, voilà. Bien sûr. Mais... on va parler de F1 aujourd'hui. Non,
c'est pas ça. Et donc, on va commenter ensemble l'actu. Il y a plein de choses intéressantes, mais on va commencer par cette date. Ce sera le 10 juin. Préparez-le, notez-le sur vos tablettes. Le 10 juin, évidemment, on évoquera la WWDC, la conférence des développeurs d'Apple. Pourquoi annoncer cette date? Finalement, bon, c'est pas très grave. Hein, il y a une WWDC, ça ne sera pas la première ni la dernière. Sauf qu'elle a une petite saveur particulière, cette WWDC. On est en droit d'attendre beaucoup de choses concernant l'intelligence artificielle. Et visiblement, les promesses pourraient être tenues parce que chez Apple, ça commence à dire, vous allez voir, cette WWDC, ça va être génial, top, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? On va avoir une claque?
On parlait de l'Apple Vision Pro tout à l'heure avec Nico. C'était la grande nouveauté l'année dernière de l'édition 2023, hein, alors que tout le monde avait les yeux braqués sur ChatGPT et l'IA générative, que toute l'industrie de la tech essayait de répondre à ChatGPT avec son propre moteur d'IA générative. Tous, sauf Apple. Alors, un an après, presque un an et demi après, il est peut-être temps qu'Apple nous sorte quelque chose. Voilà, donc c'est surtout vers l'IA qu'on attend une réponse d'Apple.
L'IA générative, non, parce que c'est vrai que l'IA, il y en a déjà dans l'iPhone. Oui, il y a plein de trucs, les photos.
L'IA, c'est un terme qui englobe plein de choses. C'est vrai que l'IA générative, on pense plus à une réponse à ChatGPT, on pense plus à une réponse à Midjourney, à ces outils de génération d'images.
Un Siri moins bête.
Mais c'est vrai, un Siri moins bête, évidemment, il est temps de changer, de changer Siri. Hein, on ne peut pas rester. Moi, je suis utilisateur des deux, de Siri à la maison et de ChatGPT au quotidien. L'écart, il commence à se faire sentir et il est de plus en plus
piquant pour Apple. Siri, t'as l'impression que c'est un grabataire qui est au bout du rouleau.
C'est un peu ça. L'enjeu pour Apple n'est pas forcément de mettre une claque. Personne, je pense, ne s'attend à ce qu'Apple dévoile des outils qui ringardisent ChatGPT, Google Gemini et tout ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie. Par contre, l'enjeu pour Apple, c'est de rattraper son retard, aussi bien d'un point de vue des utilisateurs, pour leur prouver qu'Apple est capable d'innover sur cet aspect-là et d'intégrer des fonctions qui intéressent les gens à ces produits, et aussi du point de vue des investisseurs qui commencent un peu à en s'acquitter. Mmh. On voit dans le monde, dans le petit monde de la bourse, des grandes entreprises tech, que Apple est l'entreprise qui a un petit ralentissement de croissance, notamment parce qu'on se demande si Apple va être capable de résister à la montée de l'IA, est-ce qu'Apple va être capable d'être un des acteurs de l'IA. Donc pour eux, c'est vrai que Apple est une marque qui, à part sur certains aspects, ne communique pas en avance sur ce qu'elle va faire. Et dans sa manière de parler de l'IA depuis quelques mois, on sent qu'il y a cette priorité-là, parce que Tim Cook lui-même dit, vous allez voir, on vous dira plus tard cette année.
On commence à faire chauffer la marmite, quoi. Avant de servir le plat, on commence à dire, regardez, c'est en train de... ça se cuisine.
Exactement, on a Greg Josiak, qui est le vice-président marketing d'Apple, qui présente une keynote absolutely incredible, avec des majuscules sur ces deux mots, qui fait AI, donc artificielle intelligence. Donc il y a une volonté de dire on arrive, ne vous inquiétez pas, mais personne ne sait vraiment sous quelle forme ils vont arriver.
En revanche, Olivier, avec tout ce battage, etc., ils ont intérêt à nous sortir du lourd, parce qu'autrement, ça va être encore une fois une déception. Et tu le disais, les marchés financiers vont mal réagir. Donc c'est compliqué là. Hein. Vous allez voir, ça va être absolument incroyable. Il faut tenir après la promesse.
Même si Apple ne devenait pas un géant de l'IA, ça ne l'empêcherait pas de vendre des millions d'iPhone tous les ans, d'avoir des services. Enfin, je ne pense pas que ce soit non plus... Apple peut rater la coche de l'IA. Maintenant, pour eux, c'est important aussi de ne pas dépendre des services des autres et d'avoir des services maison.
Pour moi, Apple ne peut pas rater la coche de l'IA. Apple ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'on a reçu, tu sais, dans Refait le Mac pour les 40 ans, on en avait parlé ici du Mac, Bertrand Serlet, qui est le papa, un des rares papas français de Mac OS X. Et sa seule inquiétude pour la mise Apple, c'est qu'Apple a raté, je cite, le virage de l'IA générative. C'est-à-dire qu'au moment où il aurait fallu commencer à actionner quelque chose et commencer à intégrer des fonctions avancées d'IA générative dans iOS, ils ne l'ont pas fait. Ouais. Et aujourd'hui, les dernières rumeurs qu'ils se disent, c'est qu'ils sont tellement en retard qu'ils prendraient les fonctions de Gemini, de Google. Donc c'est un sacré aveu d'échec. C'est de la rumeur. Hein. On sait qu'ils discutent aussi avec OpenAI, avec pour ChatGPT, mais
ou avec Anthropique aussi, je crois.
Hein. Anthropique, avec Baidu en Chine,
etc. Donc, ils ont raté le coche parce qu'ils étaient effectivement très concentrés sur l'Apple Vision Pro, qui lui aussi a besoin, et tu le sais, des fonctions avancées de IA générative. Bref, donc Apple a raté ce virage. Et on s'attendait toujours à ce qu'Apple ne soit pas en avance sur les tendances du marché, puisqu'ils opèrent le virage au bon moment généralement. Est-ce que c'est le bon moment de le faire maintenant ? Quand on discute avec les responsables d'Apple, ils nous disent « Oui, effectivement, on n'est pas les premiers, mais est-ce que c'était le bon moment de le faire il y a un an et demi ? Regarde tout ce qui se passe aujourd'hui en matière de confidentialité de données, en termes de fake news. Nous, si on veut faire quelque chose, un outil d'IA, on veut qu'il soit vertueux. » Ok, bon, on va voir, on aura la réponse, ça arrive vite. L'enjeu, c'est que, effectivement, on le voit, dans de plus en plus de concurrents d'Apple, tu as parlé de Samsung tout à l'heure ou d'Android avec Google.
On parlera d'ailleurs de Samsung et d'IA tout à l'heure.
On voit qu'il y a des fonctions implémentées au cœur de l'OS. Et on ne peut pas se permettre juste d'avoir de l'IA cachée, entre guillemets, parce que je peux faire un copier-coller, un détourage automatique. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc Apple a besoin d'implémenter des outils d'IA. La rumeur semble dire que, de manière générale, ils utiliseraient l'outil Gemini. Et apparemment, et comme tu le disais très bien tout à l'heure, ils commencent à diffuser quelques informations comme quoi, en parallèle, ils travaillent à leur propre outil qui correspondrait plutôt à leur vision de l'IA générative qui serait un peu plus vertueuse, à savoir qui serait pas générateur de fake news et qui pourrait respecter le mantra de Tim Cook, à savoir la confidentialité et la privacité.
Alors Nico, on ne sait pas tout là-dessus, parce qu'évidemment, Apple est toujours très secret, mais les rumeurs, si elles se confirment, et si Apple fait appel à Google pour avoir son IA génératif, ça serait quand même assez étonnant, parce qu'on sait qu'Apple aime bien tout gérer. On l'a vu avec les processeurs, pendant des années, ils ont travaillé avec Intel, et puis petit à petit, ils les ont mis dehors. Qualcomm, pareil. Alors, ils ont toujours besoin de Qualcomm, mais s'ils peuvent s'en séparer en créant leur propre puce réseau, ils le feront. Là, c'est bizarre, on sent qu'il y a une espèce de notion d'urgence, du style, les gars, on n'est pas prêts, appelez-moi un sous-traitant, quoi. Et il faut qu'on arrive à avoir quelque chose, malgré tout, qui tienne la route.
Et il y a aussi des précédents. On a tous en tête Apple Plan, qui a été une volonté d'aller très vite s'émanciper de Google et qui a donné un échec industriel, au moins sur le démarrage. Aujourd'hui, ça a peut-être rattrapé son retard. Ce qui est intéressant, on l'a vu ces derniers mois, c'est qu'Apple publie, on pense qu'Apple est une marque qui ne fait jamais de recherche publique. Non, Apple est présent sur des plateformes de recherche, publie des essais et ils ont publié plusieurs modèles de langage publiquement, dont certains capables de reconnaître des images, certains capables de générer du texte. Donc Apple a développé ses propres outils. La question, c'est si Apple arrive vraiment à un accord historique avec Google qui consisterait à faire de Google Gemini le modèle de langage de l'iPhone. Ça voudrait dire que les enquêtes de qualité interne d'Apple sont arrivées à la conclusion que leurs modèles de langage maison sont voués à l'échec ou à la critique. Ce qui serait d'une certaine manière un aveu d'échec, mais qui, d'un point de vue de l'utilisateur, voudrait dire qu'on aurait des fonctions fonctionnelles dès le départ. Donc, il ne faut pas non plus s'inquiéter. Il y a une autre possibilité aussi qui est évoquée dans la presse américaine ces derniers temps, c'est que cette histoire de partenariat avec Google ne serait pas forcément un duo Apple-Google, mais plutôt la possibilité, comme dans les réglages de Safari avec son moteur de recherche par défaut, de choisir son modèle de langage par défaut. Donc, Apple pourrait se positionner comme on voulait choisir entre Google Gemini et GPT-4.
Oui.
Donc il y a plein d'interrogations, ce qui a l'air de se dire.
Et en plus, ça leur permettrait d'être un petit peu plus sage par rapport à la réglementation, c'est-à-dire que.
Oui, déjà d'un point de vue monopolistique, ils créeraient pas de situation compliquée avec Google, et au-delà de ça, ils pourraient mettre sur le dos d'un autre ce qui ne va pas sur l'IA générative, tout en se concentrant sur des fonctions maison. Sur la photo, ils ont pas mal de retard. Ils sont forts sur la photo. Moi, je suis toujours impressionné par l'outil de recherche d'Apple Photo, qui est capable de retrouver un pont, moi et un chat, un truc dans le genre.
Et moi, je trouve que Google Photo est plus fort quand même.
Google Photo est encore plus fort, mais Apple fait des choses vraiment fortes. En plus, c'est local. Donc, je pense qu'il y a encore plein d'axes d'amélioration de ce point de vue-là. Sur les résumés d'un message, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire en local avec un modèle de langage Apple. Maintenant, sur la génération de textes plus complets, sur un super Siri, peut-être que l'utilisation de GPT-4 ou de Google Gemini est la solution.
Alors, moi, j'interprète les choses dites. Alors, effectivement, tu as raison, et je le disais en préambule, ça peut être considéré comme un constat d'échec pour Apple d'adopter Google. Tu disais aussi Google.
Je ne le vois pas forcément comme un échec, je le vois plus comme une prise de conscience et quelque chose qui servirait finalement.
Moi, je dirais comme un constat d'échec. Moi, j'assumerais ce fait-là. Mais, et puis après tout, ça peut arriver, il n'y a rien de dramatique à cela. Mais moi, ce que je vois, c'est plus une attitude opportuniste d'Apple. On sait que Google est un outil qu'utilise, paye beaucoup d'argent chaque année, plusieurs dizaines de milliards d'euros, de dollars plutôt, pour intégrer Google au cœur d'iOS et de Safari notamment. Il pourrait très bien intégrer Gemini. Et d'un autre côté, les gens de Google se retrouvent avec un parc installé de 2 milliards de personnes, grosso merdo, et ce qui n'est pas négligeable pour générer de la donnée et rendre plus efficient le moteur de Gemini. Donc, ce serait purement opportuniste parce qu'ils continuent à faire leur propre virage, tu le disais, avec leurs propres outils. Ce qui est intéressant, effectivement, tu l'as dit, c'est qu'on a vu qu'Apple, depuis quelques mois, commence à parler et commence à communiquer. Pour une entreprise qui ne parle jamais, y compris quand on fait des études et qu'on les publie, Apple ne publie jamais rien. Et là, il publie des choses. Il y a eu d'abord Ferré, qui est apparu au mois d'octobre, au mois de novembre de l'année dernière. Ce qui est intéressant avec Ferré, ce qui est intéressant avec Ferré par rapport à Gemini, c'est qu'ils sont vraiment complémentaires. C'est-à-dire Gemini, c'est vraiment le gros moteur qui nécessite une infrastructure monstrueuse. On a vu les annonces d'NVIDIA il y a 15 jours, avec des milliers de serveurs et des milliards d'investissements considérables. C'est-à-dire que si demain Apple voulait ressortir son Gemini, il ne pourrait pas. Parce qu'ils n'ont pas l'infrastructure pour pouvoir le faire tourner. C'est aussi simple que ça. C'est la même chose lorsqu'ils ont sorti Siri. On se disait, mais pourquoi ils sortent Siri sur l'iPhone 4S et pas sur tous les autres iPhones avant ? Parce qu'ils n'avaient pas l'infrastructure pour la faire tourner.
Ils n'avaient pas la capacité serveur.
Donc là, ils se retrouvent avec la possibilité de disposer d'une infrastructure clé en main. C'est celle de Google. Logiciel et matériel. Et d'un autre côté, Ferré permettrait de faire tourner un moteur d'IA localement dans l'iPhone. Et ça, c'est vraiment la vision d'Apple. C'est-à-dire, elle est virtueuse, on ne va pas taper dans les serveurs, on ne va pas, exploiter vos données.
Mais on respecte un petit peu la notion de vie, sécurité sur de la vie privée.
Tout en exploitant toutes les capacités du Neural Engine, qui n'a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui.
Donc Ferré, ce serait le nouveau Siri, finalement, si j'ai bien compris.
Non, c'est le modèle de langage de la même manière que quand on parle de Google Gemini, il faut faire attention. C'est la faute de Google, c'est eux qui ont créé cette confusion. Il y a à la fois le modèle de langage Google Gemini, qui est concurrent de GPT-4, et il y a Google Gemini, le service qui est concurrent de ChatGPT. Là, ce qu'on dit, c'est pas qu'Apple va utiliser le service, ils utiliseraient le modèle de langage.
Tout à fait.
Mais ils pourraient coder ce modèle de langage pour lui dire « tu t'appelles Siri ». Donc le Gemini à la sauce Google pourrait devenir Siri et répondre à la manière d'Apple.
Pour rendre un peu plus intelligent Siri, comme c'est déjà le cas, on peut rendre plus intelligent Siri en tapant dans ChatGPT.
Et il peut y avoir une forme locale de Siri qui utiliserait justement ce modèle de langage Ferré, qui serait capable de faire tout ce que fait Siri aujourd'hui en mieux, directement avec la puce de l'iPhone, et dès qu'on lui demande de rédiger une rédaction sur l'histoire de Napoléon, et ben il va puiser dans les informations de Gemini, au hasard, Napoléon, et il va être capable de générer ce contenu-là en accédant au serveur de Google. Donc la possibilité n'est pas folle.
Et ce qui est intéressant, on sait que les puces Apple ont une vraie valeur ajoutée par rapport à ça et par rapport au reste du marché. L'avantage d'être, même si aujourd'hui ça leur cause des soucis avec le ministère de la Justice américaine, maîtriser le logiciel et le hardware, c'est un avantage lorsqu'on veut vraiment optimiser des puces pour faire de l'IA. Ce qui est intéressant, tu le disais aussi, c'est qu'Apple a publié des études récemment sur un langage plus large, qui serait un concurrent clair de Gemini, qui s'appelle MMA, c'est le nom de code aujourd'hui. Et c'est un développeur d'Apple qui l'a publié, qui a fait des tweets à long, large et en travers. Je l'ai dessus, ça, je crois qu'il s'appelle Mackenzie, elle est sur X et suivez-le. Et en fait, il monte son modèle. Il y a une démo où on voit en gros une table. Sur cette table, il y a des bières, je crois. Il y a à manger, à boire. Il y a un menu. Et en fait, MMA est capable de deviner l'addition. Voilà,
ça montre. Okay. C'est de la reconnaissance d'image.
Voilà. Donc, et là, on est vraiment. Et en gros, le développeur, le patron de cette division d'Apple, explique qu'il serait déjà au niveau de Gemini en termes de puissance. Après, il faut avoir l'infrastructure pour le faire tourner derrière. Ils ne l'ont pas, hein. C'est clair aujourd'hui qu'ils ne l'ont pas.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'Apple va travailler là-dessus. Ils doivent mettre les moyens, forcément.
Hein. Ils ont peut-être mis un peu tard, hein. C'est ce que disait Olivier. Je pense que leur principale erreur, c'est d'être parti trop tard. C'est
bien
de ne pas avoir anticipé
et de
la
pas être
tendance.
Prêt pour l'échéance de la WWDC.
Ils ont compris rapidement que quand tout a paru, ils ont compris qu'ils ont raté le coche et qu'il fallait investir. Et ils ont investi. Mais du coup, ils sont partis avec 2-3 ans de retard sur OpenAI et sur Google, sur la même chose.
En soi, ce n'est pas vraiment gênant. Quand tu vois avec toute la tendresse et la sympathie que je peux avoir pour un Mistral qui ont quand même infiniment moins moyen qu'un Google ou qu'un OpenAI où je vais pour travailler, quand tu vois la qualité de leur travail aujourd'hui, la puissance de leur moteur, on se dit qu'un Apple avec quelques milliards qu'ils ont derrière, il y a capacité de rattraper son retard. Mais ce qui est intéressant avec MMA, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'aller et d'attaquer les ChatGPT ou les Gemini sur leur terrain. Donc ça peut être pour moi opportuniste un temps d'utiliser les outils de Google et demain basculer sur autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est la déclaration d'un des anciens d'OpenAI aujourd'hui qui est un pont de Nvidia qui dit c'est quand même intéressant de voir qu'une entreprise qui communique jamais une sorte des études avec des études qui sont hyper pointues qu'on voit rarement dans le domaine de l'IA qui vont très loin en matière de privacy, ça n'existe pas. Et tiens, c'est Apple qui ne communique pas et qui fait cette étude. À mon avis, Apple is back, suivez ça. Et c'est Nvidia qui le dit. Mm-hmm. Quand même,
c'est intéressant.
C'est aussi un moyen d'aller chercher les talents.
Par contre, il faut l'infrastructure. Par contre, il faut mettre tout ça en place. Et ce qui est intéressant, tu disais qu'ils rattrapent le retard. Cette année, je crois qu'ils ont racheté près d'une trentaine de startups autour de tout ce qui est vraiment efficient. Toutes les nouvelles tendances en matière d'IA pour justement ne pas rater le coche et prendre un coup d'avance à nouveau. Et c'est Apple aujourd'hui qui rachète le plus de startups en matière d'IA dans la Silicon Valley aujourd'hui. Donc voilà.
Rendez-vous le 10 juin. On verra bien ce qui sera annoncé parce que c'est la conférence des développeurs. Hein. Il n'y aura rien de vraiment concret. C'est-à-dire qu'on aura quelques bribes d'informations et après tout ça arrivera avec le nouvel iOS 18 qui sera sur le prochain iPhone 16. Qui sortira à la rentrée. Enfin, il sera aussi sur les autres téléphones, mais ça va être intéressant de voir aussi si Apple va communiquer sur peut-être des nouveaux processeurs sur les iPhone 16, peut-être plus...
C'est ce qu'annoncent les rumeurs, en
plus optimisé pour l'intelligence artificielle, comme l'a fait Samsung, d'ailleurs, avec le S24. Concernant Apple, autre actualité, il y en a deux, hein, c'est le DMA. Vous savez, Apple est obligé de se plier à la réglementation européenne au sujet du store et de plein de services, d'Apple Pay, etc., etc. Et puis d'un autre côté, aux États-Unis aussi, ça commence à gueuler, si je puis me permettre l'expression, et notamment le gouvernement américain qui commence à pointer du doigt Apple sur sa situation monopolistique sur plein de sujets, que ce soit e-message, etc. C'est intéressant parce que je trouve qu'on vit une période un peu chahutée pour Apple, un peu en retard sur l'IA, l'innovation des iPhones qui, depuis quelques années, patine un peu. Alors, il y a le Vision Pro qui est quand même une nouveauté, mais la réglementation qui évolue et qui commence à enquiquiner sérieusement Apple sur son modèle et sur son intégration logicielle matérielle. Est-ce que Apple se sent un peu à la croisée des chemins, là, ou est-ce que finalement, plus de peur que de mal? Qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne sais pas si tu es d'accord, mais pour moi, c'est une conséquence logique de la grandeur de l'entreprise aujourd'hui. Le Apple de 2024 n'est pas le Apple de 2010 et c'est devenu une super entreprise géante qui doit tout calculer sur 4 ou 5 ans en avance parce que les chaînes logistiques sont hyper importantes et qui doit contrôler justement tout ce mécanisme-là. Ce que je trouve intéressant, alors ça n'engage que moi, c'est que je comprends les motivations du Digital Markets Act européen. Je comprends pourquoi on veut réguler les géants de la tech, pourquoi on veut mettre ce cadre, mais je comprends beaucoup moins là où veulent aller les États-Unis. Déjà parce qu'ils ciblent une seule entreprise, on ne parle pas d'une régulation, mais on parle d'un procès à l'encontre d'une entreprise, et parce que les choses qui sont reprochées par le département de la justice américaine, parfois ça frôle un petit peu
la mauvaise foi,
le complotisme, mais
le foutage de gueule,
de mauvaise foi. C'est vraiment l'idée que les gens, enfin, à en lire, hein, il y a un document de 88 pages qui a été publié. Il y a
qui est assez sévère
presse,
d'ailleurs. Hein.
C'est très sévère. Il y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, quand on dit qu'il y a des choses que l'Europe n'a pas abordées, qui sont comment se fait-il que l'Apple Watch ne fonctionne pas sur Android et pourquoi les autres montres n'ont pas accès aux mêmes fonctions que l'Apple Watch sur iPhone. En effet, peut-être que c'est intéressant, peut-être qu'il y a une piste à étudier là-dessus.
Il y a iMessage aussi qui est intéressant.
Il y a iMessage intéressant, c'est un point qui concerne les États-Unis.
Il y a pas que, tout n'est pas acheté hein, dans les considérations du gouvernement.
Mais en fait, à en lire ce document et à écouter Merrick Garland, qui est le procureur général des États-Unis, Apple est une entreprise, pour eux, on achète un iPhone parce qu'on n'a pas le choix. Il n'y a jamais la supposition que des gens achètent un iPhone parce qu'ils ont envie d'avoir un iPhone. On part du fait que tout ce qu'a créé Apple est une imposition et qu'aujourd'hui, la concurrence ne peut pas émerger parce que les gens sont forcés d'acheter du Apple. C'est ça, on est forcé d'acheter du Apple parce que iMessage, on est forcé d'acheter du Apple parce que Apple Pay. On est forcé d'acheter du Apple parce que Android n'a pas la même interface que l'iPhone. Donc, passer sur Android, c'est compliqué pour certaines personnes. Mais ce n'est pas vrai. Il y a aussi certainement une part importante, majeure des utilisateurs. Je crois qu'Apple est l'entreprise avec le plus gros taux de fidélité dans le monde du smartphone. Qui reste sur un iPhone, de satisfaction aussi. Qui reste sur un iPhone parce qu'elle aime l'iPhone. Et ce procès-là américain voudrait démanteler, voudrait prouver qu'Apple est dans une situation de monopole et démanteler tout ce qui fait que l'iPhone est un iPhone pour justement permettre à toute la concurrence d'émerger. Mais je ne suis pas sûr que ça aille dans le bon sens. Et quand on voit certains précédents aux États-Unis, quand on voit la force d'Apple, notamment avec ses avocats, je me demande si ça ne va pas être du temps perdu qui va juste aboutir à un non, ce n'est pas un monopole. Ils ont prouvé assez miraculeusement que l'App Store n'était pas un monopole devant la justice américaine. Alors franchement, j'ai du mal à comprendre comment ils en sont sortis là-dessus. Donc comment on peut prouver que l'iPhone est un monopole quand il n'a que 50% du marché ?
Olivier,
Je suis assez d'accord avec toi, mais alors déjà, on peut s'interroger effectivement sur les réelles motivations. Elles sont doubles. D'abord, il faut savoir que le département et la personne que tu décrivais, ce sont des élus. Hein.
Tout à fait. Oui.
Donc, c'est une formidable tribune pour eux. C'est une enquête qui a été ouverte il y a 4 ans sous Donald Trump. Voilà. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là. Et puis la finalité de tout ça. Moi, il faut rappeler quand même que aux États-Unis, il y a quand même une loi qui est la loi antitrust qui a nécessité de casser des géants du pétrole dans le siècle dernier, de casser des géants des télécoms, Bell qui est devenu AT&T. Mmh. Bref, est-ce qu'il faudrait casser Apple ? Pourquoi ? Est-ce qu'on reproche à Apple ? C'est en fait, c'est tout intégré. Faire du matériel, c'est des constructeurs d'ordinateurs, de smartphones, faire du logiciel et faire du service. Mais c'est la force d'Apple aujourd'hui de pouvoir intégrer, c'est l'ADN d'Apple. Et c'est ça, moi, qui me gêne. On est en train de critiquer ce qui constitue l'ADN d'Apple. Alors, quand ils font 1 ou 2 ou 3% de marché ou 5% de marché, comme du temps de Steve Jobs, dans les années 90 ou 2000,
on s'en fout.
On s'en fout. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand ils font 65% de part de marché, comme c'est le cas de l'iPhone, ça, on a tendance à l'oublier aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a qu'Apple, hein, quasiment. Ah, oui. Parce que Huawei, il n'est pas présent.
Il y a quoi ? Il y a un peu de Samsung, je pense. Un peu de Motorola, je crois, aussi. Voilà.
Oui, en Google, je crois, occupe une place de troisième derrière
Mais
Samsung aujourd'hui.
Mais c'est vrai qu'Apple crache tout le monde, quoi.
Mais voilà. Oui, il y a moins de concurrence
en Europe. Et automatiquement, ça active la loi antitrust. Si tu as plus de 50% de marché, tu es éligible, entre guillemets, pour tomber sous cette loi. Bien. Donc la première motivation des États-Unis, je n'ose imaginer qu'Apple veut démanteler Apple, c'est freudien, que le département de justice américaine veut démanteler Apple, mais je pense qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent. Parce qu'effectivement, il y aura soit un accord à l'amiable, soit un procès qui va déboucher sur une énorme amende, parce qu'ils voient bien qu'en Europe, ça fonctionne, il y a beaucoup, 18 milliards, le DMA. L'habit de position dominante d'Apple par rapport à Spotify, ils ont passé des milliards.
5 milliards 8, hein, pas 18 milliards.
C'est 5 milliards 8, ouais, autant pour moi.
Il y a eu une plus grosse amende il y a quelques années qui dépassait.
Oui, mais 18 milliards, non.
C'était pas. Je sais plus, alors peu importe.
Non, mais il y avait en tout cas, plusieurs...
De Spotify, oui.
Spotify, 5 milliards 8. Bon, bref, c'est quand même beaucoup d'argent. Quoi qu'il en soit. Et
vous avez vu, on manipule les milliards, nous on est comme ça. Hein.
On est comme ça.
On jongle avec les milliards.
Voilà, mais pour revenir à Apple, et ensuite quand on regarde les points qui sont pointés, justement, qui sont montrés du doigt par le procureur du département de la justice, et c'est un procureur, donc il tape là où ça fait mal. Donc effectivement, il y a le sujet de l'App Store, mais. Bon, on sent que c'est assez opportuniste par rapport au DMA, mais là, sur ce point, il a plutôt raison. Par contre, expliquer que Amazon a planté le Fire Phone parce qu'Apple est en position de position dominante.
Ouais, c'est un peu bizarre. Moi,
si Amazon s'est planté, c'est que leur téléphone était mauvais.
C'est-à-dire qu'il tape tellement sur Apple dans tellement de directions qu'on en oublie les bonnes, les en fait, les bonnes raisons de taper dessus. Et c'est ça le souci.
Et tout ça est un peu trop politique. On est dans un contexte d'année électorale. On est aussi dans un monde aux États-Unis où les démocrates détestent les boîtes comme Apple parce qu'elles sont devenues trop puissantes. Et les républicains détestent les boîtes comme Apple parce qu'elles dictent des manières de penser. C'est devenu populaire. On l'a vu avec les auditions au Congrès, que ce soit de TikTok, de Mark Zuckerberg, de Sundar Pichai, que c'est populaire de taper sur ces géants-là. Les deux veulent les réguler, mais pas de la même manière.
Est-ce que vous trouvez que c'est aussi le hasard du calendrier que la justice américaine s'intéresse à Apple alors que le DMA vient d'être mis en place en Europe? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette petite musique de dire « Ok, le monde change, Apple est bien trop gros, propose des services qui sont beaucoup trop exclusifs à son écosystème et qu'on rentre dans une nouvelle ère finalement. Et que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on a eu déjà des trucs en Corée, il y a des pays aussi où Apple est pointé du doigt. Est-ce que c'est le hasard à votre avis? C'est ça qui est intéressant.
J'y vois plus un lien avec l'année électorale qu'avec le DMA. Sinon, on serait dans un contexte de régulation. Il y a un truc à prendre en compte, notamment sur Merrick Garland. C'était le nommé de Barack Obama pour intégrer la Cour suprême en 2016, sans doute. Sauf que les Républicains avaient bloqué sa nomination en espérant que Donald Trump soit élu. Donald Trump est élu et il a dégagé Merrick Garland. Donc, en fait, cet homme-là doit sa carrière à Joe Biden, qui l'a sauvé à son retour en lui donnant un poste. Donc, il y a une forme de redevance à Joe Biden qui est de lui donner ce coup de pouce, de dire voilà, nous les démocrates, si vous nous réalisez, on va légiférer sur les GAFA, mais on s'accuse, on s'attaque à Apple directement. Donc, je pense qu'il y a une forme de big tech versus politique, qui est en train de prendre forme aux États-Unis, et que si c'était juste le DMA, on serait plus sur un contexte global, sur toutes les entreprises.
Les caisses sont
vides.
Là,
il y a une volonté de taper.
Les caisses sont vides. Donc il faut taper.
Les caisses sont vides aussi, évidemment.
Ceux qui ont les caisses et les poches pleines.
Qui va coûter cher aux contribuables aussi.
Oui, mais ils ne vont pas perdre. Ils vont gagner il y aura peut-être un accord à l'amiable. Je ne m'inquiète pas pour ça. Mais les poches d'Apple sont pleines. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire mais comment on y arrive? Comment on est arrivé là, quand même, avec Apple? Ça montre quand même une attitude qui est quand même particulière d'Apple. C'est-à-dire, quand on dit Apple, effectivement, intègre tout, logiciel, matériel, service, que... et ça, c'est le mantra de Steve, et c'est le mantra encore de Tim Cook, en disant, mais on reste dans l'esprit start-up, on veut tout intégrer, tout maîtriser. Quand on est une multinationale qui pèse autant de milliards, on ne peut pas être aussi psychorigide.
Non,
parce qu'Apple est psychorigide. C'est le problème. On est un développeur, on a un problème, on s'adresse à qui? On est un artiste, on est sur Apple Music, on s'adresse à qui?
Oui, il y a une espèce de...
Donc il faut arrêter de penser qu'on peut tout maîtriser de A à Z. Et j'espère qu'au moins ces mésaventures apprendront à Apple à être un peu moins psychorigide.
Ouais, c'est clair.
En tout cas, Apple va changer. Apple a déjà commencé à changer dans l'Union européenne. Ils n'ont pas très envie de le faire, ils traînent les pieds, mais ils sont en train de changer.
Et vu qu'ils sont déjà dans le collimateur de l'Union européenne.
Ils sont déjà dans le collimateur de l'Union européenne.
Parce que l'Union européenne estime que leur DMA ne va pas assez loin.
La Commission, oui.
Elle a ouvert une enquête pour ça, oui.
Ouais.
Et quand tu vois les bâtons qu'ils mettent dans les roues autour de l'App Store, les taxes à l'entrée, alors ils les ont retirés, il fallait déposer un million d'euros sur un compte. Puis, on ne le met plus. Et puis derrière, si vous vendez plus de
100 millions d'applications,
il faut verser 50 centimes. C'est, je pense
la preuve, on a combien d'App Store concurrents lancés un mois après le DMA? Zéro.
Ça arrive, il y en a deux plus.
Oui, ça arrive, mais il n'y en a aucun lancé.
Epic est vraiment déterminé.
Epic est déterminé, mais
il y a Setapp aussi qui a fait.
Même Epic, moi j'ai du mal à y croire, parce qu'ils vont dépasser le million de téléchargements. Donc est-ce que tout ça n'est pas un coup de bluff et au million, ils vont se retirer pour faire un cinéma? C'est bizarre, parce que d'un côté, ils attaquent Apple publiquement et de l'autre, ils annoncent qu'ils vont lancer un truc.
Tout ça aussi, c'est sur le temps long, parce que ce DMA, c'est quand même un sacré carrefour, en fait, un nouveau chemin qui est ouvert. Ça va mettre du temps, parce que je pense que, évidemment, les acteurs qui voudraient lancer un App Store sont en train de regarder la viabilité du truc, techniquement, est-ce que Apple répond aux questions, etc. Ça va prendre du temps. Ça va être intéressant, par exemple, l'année prochaine, de voir si effectivement tout se démarre.
Et est-ce que ça sera étendu à d'autres territoires? Il y a plein de questions.
Bon, comme pour le RGPD.
On fait un petit break, les amis?
Allez.
Et on va encore parler d'IA et de smartphone, mais cette fois-ci avec Samsung. Ce sera notre deuxième partie de Quoi je mêle avec Olivier Frigara, Nicolas Lelouch. Vous restez avec nous, bien sûr, on revient tout de suite.
De Quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De Quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, le retour de quoi je me mêle, deuxième partie. Olivier Frigara, dont on fait le Mac, est avec nous pour commenter l'actu. Passionnante première partie. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube et que vous tombez sur ce module, ben, sachez qu'il y en avait un premier, hein, avec évidemment toutes les, tous les commentaires sur la WWDC d'Apple et puis aussi les tourments de, d'Apple concernant le DMA et puis le procès hein, qui lui a intenté aux États-Unis. Nicolas Lelouch est avec nous aussi de Numérama.
Bonjour François, bonjour Olivier.
Et on va toujours parler d'IA et de smartphone, mais cette fois-ci avec le concurrent principal d'Apple, il s'agit de Samsung qui a annoncé pas mal de choses concernant justement sa vision de l'IA sur les modèles en fait, modèles de smartphones.
Samsung a pris un peu d'avance sur les autres acteurs de smartphones dès le début de l'année en annonçant Galaxy AI qui est une suite logicielle avec plein de différents services en IA. C'est ça qui est intéressant sur Galaxy AI, on a longtemps pensé avec les rumeurs que ça serait le ChatGPT de Samsung, mais non, en fait c'est juste un nom commercial qui englobe plein de fonctions. Ça peut être le résumé des notes, le résumé d'une page web, la possibilité de passer des appels dans d'autres langues avec une traduction en temps réel. C'est assez intelligent.
C'est génial.
Ouais. Eux aussi, ils ont une approche mi-locale.
Ça marche super bien, c'est-à-dire que les ventes de Galaxy S24, on ne sait pas si c'est grâce à ça, mais elles sont excellentes.
Elles sont en train, oui, ça se passe vraiment pas mal pour eux. Il y a une vraie approche à la fois cloud, mais à la fois locale. Il y a une envie de faire des choses directement sur le smartphone. Donc, d'une certaine manière, Samsung est en train de précéder ce qui risque de se passer dans le reste de l'industrie, que ce soit chez les acteurs chinois et chez Apple avec iOS 18. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Samsung, au début, a lancé cette fonction uniquement sur ses S24 et on pouvait penser que ça serait un moyen de vendre des S24, mais non, eux ont une volonté de dire que Galaxy AI, maintenant, ça va englober tout l'écosystème Samsung, et petit à petit, ils sont en train de le déployer sur d'anciens appareils. Alors évidemment, ça ne va pas remonter sur les téléphones d'il y a 4-5 ans, mais il y a déjà une première série, il y a One UI 6.1, donc la mise à jour, qui est disponible depuis le 28 mars, qui ajoute Galaxy AI sur les S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 et les Galaxy Tab S9, tous les modèles de l'année dernière.
Pas mal.
Que l'autre gamme, c'est pas mal, parce que le S23, c'est quand même un grand parc. Ouais. Le S23 FE, il est abordable. C'est-à-dire qu'on peut avoir un smartphone abordable aujourd'hui avec de l'IA intégré. Et je trouve que c'est plutôt une démarche à saluer, parce que c'est cool de voir, surtout Samsung qui a longtemps été critiqué pour les mises à jour inexistantes de ses produits. C'est cool qu'on n'ait pas que sur des mises à jour de sécurité, mais on ajoute la fonction phare des Galaxy S24 sur les autres appareils
évidemment
assez rapidement.
Ça va freiner les ventes du S24. En tout cas, le fan de Samsung qui a un S23 et qui se disait « Ah, c'est tentant et tout, j'aimerais bien avoir ces fonctions AI », il fait sa mise à jour. Est-ce que ça sera les mêmes fonctions? On retrouve les mêmes fonctionnalités que sur le S24
quasiment. Après, je crois que oui, hein, c'est toutes les mêmes fonctionnalités. Après, Galaxy AI est amené à évoluer. J'avais interviewé lors du lancement la responsable innovation IA de Samsung qui disait qu'eux travaillent aussi sur une version de Bixby avec leur propre modèle de langage qui arriverait plus tard avec du traitement local. Bixby qui est très populaire aux États-Unis. Hein.
Ah ouais.
Bixby, ça marche bien en anglais.
Ah ouais.
En coréen et en anglais, ça marche très bien. En français, bon, il y a peut-être un petit problème, mais peut-être que le modèle de langage peut sauver justement cet aspect-là. Donc, peut-être que les futures fonctions de Galaxy AI, celles qui exploitent la puissance locale, auront besoin des dernières puces Snapdragon, auront besoin des dernières puces Exynos. Donc, à terme, les nouvelles fonctions seront réservées aux nouveaux appareils. Maintenant, tout ce qui est résumé, tout ce qui est appel en direct, tout ça, c'est disponible sur les S23 de l'année dernière et c'est plutôt pas mal.
Et on comprend pourquoi Apple accélère de son côté, parce qu'il ne peut pas laisser le marché à Android et Google et Samsung d'un autre côté. Hein. Ça devient un argument de vente. Fort. Moi, ce qui m'a fait le plus sourire, c'était que lorsqu'ils ont sorti les MacBook Air il y a 15 jours, 3 semaines, l'argument de vente, c'était de dire que c'est l'ordinateur personnel le mieux taillé pour faire de l'IA.
Ah oui, avec le M3, c'est
ouais.
ça.
Mais monsieur Apple, vous savez, vous n'avez pas d'outil d'IA. Donc, ils font tourner Copilot dessus. Donc, c'est un peu bizarre, quoi. Mais des démos Apple avec des outils de Microsoft, moi, j'avoue que j'ai un peu de mal.
Après, c'est l'opportunisme de la com.
Oui, bien sûr.
C'est histoire de mettre dans la tête des gens Apple.
Non,
IA,
ça
Apple
pour
IA.
Eux, ça devient important. Ouais. Ce n'était pas le cas il y a un an. Aujourd'hui, on sent qu'ils mettent. Ils accélèrent fort. Et même pour l'Apple Vision Pro, on pourrait se dire ils ont perdu du temps avec l'Apple Vision Pro. L'IA, c'est un outil essentiel.
C'est un des meilleurs produits pour l'IA. Lui, d'ailleurs, je les ai emmenés en plateau, les lunettes de Meta.
Oui.
Elles ont maintenant une IA en bêta. Alors, il y avait déjà Meta AI qui permet de répondre. C'est impressionnant. Hein. C'est le niveau de ChatGPT en qualité de réponse. C'est qu'en anglais, malheureusement. Mais là, ils ont ajouté une fonction photo. Donc, je regarde la Tour Eiffel. Je dis, c'est quoi? Et ça va me dire, c'est la Tour Eiffel. Ça a été fabriqué en telle année. Et c'est instantané. Il n'y a quasiment pas de délai de temps de traitement.
Et donc, tout ça, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'affichage sur les lunettes. Hein. C'est vraiment que de l'audio.
Ça parle. Oui, c'est ça. Okay. Mais pour moi, les produits wearables, lunettes, casques, se prêtent très bien à l'IA, en tout cas sur la reconnaissance d'image. Ou, on pourrait imaginer cuisiner cuisiner avec des lunettes connectées et avoir une assistance sur attention, là ça commence à être bien cuit, arrête ou retourne-les. C'est
assez beurre,
il y a plein de choses qui sont possibles.
On voit quand même la stratégie de Meta qui est en train de se dessiner finalement.
Alors, on voit qu'ils sont plutôt. On souvent moqué, mais ils sont pas mal. Bon, alors moi, je me moque toujours d'eux sur le métavers, c'est n'importe quoi le métavers. Mmh. Par contre, les produits qu'ils ont créés pour le métavers, ils ont un sacré potentiel.
Je ne sais pas si vous avez testé le Quest 3. Là, j'ai eu la chance, c'était compliqué de l'avoir. Hein. J'ai réussi à en avoir un. Et c'est vraiment un produit étonnant hein, quand même, hein, parce que par rapport à son prix, il est super. La qualité d'image est meilleure que le 2. Je trouve que les manettes sont sympas. Ça marche même. Certaines fonctionnalités fonctionnent comme sur l'iPhone sans manette, mm-hmm. simplement avec les mains. Le switch entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée se fait très bien. La qualité a vraiment augmenté de la vidéo. C'est vraiment un produit pour ce prix-là qui est vraiment malin.
Si la réalité virtuelle mixte augmentée éclos dans les prochaines années, il ne faudra pas du tout sous-estimer l'apport de Mark Zuckerberg et de Meta là-dessus. C'est eux clair. Qui ont le plus mené l'industrie, qui ont créé l'écosystème.
Ils ont un écosystème
incroyable.
Peut-être
que ça ne sera pas eux les rois, hein, peut-être que ça sera Apple et Google qui vont reprendre l'ascendant, comme souvent sur ce type de secteur. Mais c'est grâce à Mark Zuckerberg, à sa vision avec Oculus, qu'on arrivera à ça. Donc, il n'a pas que du mauvais, ce Mark Zuckerberg.
Oui, et puis il y a de la place pour plusieurs acteurs. Ils ne sont pas sur le même terrain en matière de rapport qualité-prix, c'est évident. Ils sont 10 fois plus chers du côté d'Apple. D'ailleurs, si Apple va commencer à distribuer ailleurs qu'aux États-Unis prochainement pour la WWDC.
C'est aussi la vraie question. Hein. Est-ce qu'on aura un Vision Pro là, dans les mois qui viennent en France ?
La logique voudrait que oui, on va voir. Mais on va voir.
On verra.
Mais pour revenir à Meta, la meilleure nouvelle qui est arrivée à Mark Zuckerberg, c'est qu'Apple sort un Apple Vision Pro.
Bien sûr.
C'est un outil d'évangélisation autour de...
Il se sent moins seul. Alors, il a un concurrent de taille, mais il est moins seul.
Il y a un concurrent qui a à faire le taf marketing qu'il n'arrive pas à faire.
Voilà, ils n'arrivaient pas à trouver les arguments de vente. L'argument de vente, ce n'est pas le métaverse, c'est l'ordinateur spatial.
C'est clair.
L'erreur. Et les lunettes vont aider aussi, je pense.
Ouais,
c'est clair. Les nouvelles lunettes attendues en fin d'année avec un écran, pour le coup, dans le verre, ça commence à être pas mal.
Oui, ça arrive, ça. Hein,
il paraît que... Alors moi, je suis fan de ce produit, je n'ai rien à lui reprocher, mais il paraît que le prochain modèle va implémenter des petits écrans pour la réalité augmentée dans la VR. Donc, curieux de voir.
Une petite start-up bordelaise, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, qui s'appelle MicroLED ou Lyonnaise. Qui fait ça super bien.
Dans le Rhône, en effet.
Ouais. Ouais, ouais,
que je reçois de temps en temps dans ta Kenko, ils font des trucs
qui
incroyables.
Qui intègre ça, c'est de l'OM. Hein. Ils proposent ça à des fabricants de lunettes,
tout ce qui est
de
lunettes
casque, de moto,
pour les cyclistes, etc. Ouais. Ils font des trucs impressionnants.
Et c'est prometteur.
On enchaîne avec les télécoms. Et c'est Free qui a dégainé en fait une offre intéressante avec la Freebox, qui est la nouvelle Freebox. Hein, je crois que c'est qu'avec la Ultra. Hein.
Non, c'est toutes les Freebox.
C'est toutes les Freebox.
Y compris, ça marche avec les Livebox. Hein, c'est juste plus cher avec les autres.
Oui, bien sûr. Ouais. OK. Et donc, faut savoir que Xavier Niel est sur tous les terrains. Et il a investi il y a quelques années de là dans une boîte qui s'appelle Chiara. Qui lui appartient d'ailleurs, je crois, ou en tout cas, il a une grosse partie du capital.
Il est investisseur, en tout cas.
Qui veut, courser Verisure, hein, qui est, vous le savez, le leader de tout ce qui est surveillance à la maison, de sécurité. Voilà, vous mettez des capteurs partout dans la maison. Fusionnez ça avec un système de... comment on appelle ça, de hotline, au cas où quelqu'un entre chez vous, il y a un gardien qui va venir, etc. Et Chiara, donc, lance à peu près la même offre, moins cher, et encore moins cher, avec une Freebox.
C'est ça, le Free de la télésurveillance, c'est comme ça que Free présente Chiara. Bon, c'est pas un partenariat qui sort de nulle part. Hein. Le créateur de Chiara, c'est l'ancien directeur général adjoint de Free, c'est Xavier Niel depuis le début qui soutient le projet. Et c'est les mêmes équipes qui avaient fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, du pack sécurité de la Freebox Delta. À l'époque, avec la Freebox Delta, on avait une caméra gratuite, des capteurs pour la sport.
Hein,
ça n'a pas marqué les esprits, mais en tout cas... Ça faisait partie pour les gros fans de Free d'un point. Ouais, ce qui est dommage, c'est que tout ça, c'était gratuit. C'était censé être une stratégie qui allait évoluer et la stratégie est complètement tombée à l'eau. Ouais. Ça a disparu de la Freebox Ultra. Free avait promis au moment de la Freebox Ultra qu'il reviendrait avec une offre maison connectée. Donc, on pouvait espérer des accessoires gratuits ou une petite option. En fait, non, c'est payant. C'est un petit peu cher, hein, d'ailleurs, parce qu'on est sur un pack qui coûte 250€ pour le grand public et 200€ si on est abonné Free. Et dans ce pack, on va retrouver des accessoires beaucoup plus modernes que ce qu'on avait sur la Freebox Delta. une caméra, il y a une alarme, il y a un digicode qu'on peut accrocher sur son mur pour désactiver l'alarme, un capteur de porte et un capteur de mouvement, un détecteur de mouvement. Et une fois qu'on a cet équipement, on a deux options. Soit on l'utilise soi-même avec sa propre application Kiara, et donc dans ce cas-là, on ne paye pas, c'est soit de créer ses automatisations. C'est vrai que moi, c'était l'usage que j'avais de la Freebox Delta, parce que j'activais l'alarme en vacances, comme ça, je savais que si j'ouvrais la porte, ça sonnait et ça faisait peut-être peur à quelqu'un, et je recevais une notification. Donc soit on se contente de ça. Bon, 200 euros, je trouve que, à titre perso, je ne recommanderais pas. C'est un petit peu cher pour juste un truc comme ça. Soit on va un petit peu plus haut et on paye 20 euros par mois ou 15 euros par mois si on est abonné Free. Et là, on a un vrai concurrent de Verisure avec la possibilité, en cas de problème, d'avoir des personnes qui vont accéder à la caméra de chez vous à distance, qui vont appeler la police, qui vont s'assurer que la police est arrivée sur place, qui vont communiquer avec la personne qui rentre dans l'appart pour vérifier que c'est quelqu'un qui a le droit de venir. Si vous avez peur, quelqu'un est en train de vous séquestrer, vous pouvez appuyer sur un bouton SOS qui va déclencher automatiquement l'aide de quelqu'un qui va prendre le relais. C'est très similaire à ce que fait Verisure.
C'est une vraie offre costaud, on va dire, de sécurité et de surveillance de la maison.
Exactement, c'est costaud en tout cas. Enfin, c'est vrai que ça, c'est sur le papier, c'est séduisant. À l'année, j'ai calculé, en incluant le prix du matériel et le prix de l'abonnement, ça reviendrait à 400 euros si on est abonné Free, alors qu'un Verisure, c'est plutôt à 2000 euros. Ouais. Donc, le prix est vraiment cassé. Maintenant, là où je mettrais juste une petite réserve, c'est que si on compare à des offres comme Ring, alors Ring, il n'y a pas la télésurveillance, c'est vrai. Par contre, Orange a une offre de télésurveillance. Ring et Orange, ils reviennent aussi à 400 euros par an, avec parfois plus d'options de personnalisation, plus de choses.
Mais ils sont moins bons marketing.
Mais pas le central d'appel, comme tu le disais.
Orange, par contre, on n'est pas propriétaire du matériel. Elle change. Ouais. C'est le truc qui est un petit peu différent.
Et Orange, on
arrête, ils reprennent tout.
Voilà. Ils sont moins forts en marketing que
Orange. Ils sont moins forts en marketing, c'est ça. Donc, en vrai, Verisure est vraiment très positionné haut de gamme. Ils s'adressent à un marché, un marché où ils sont quasiment en monopole.
Et puis, ils viennent installer le matos aussi.
Ils le vendent 300 euros, l'installation du matos Verisure. Alors que chez Free, c'est soi-disant une installation en 15 minutes qu'on fait soi-même. Ouais. Orange aussi vient installer, d'ailleurs, je crois. Mais c'est gratuit chez Orange. Il existe des offres alternatives. Moi, je suis d'avis à penser que si vous voulez juste mettre une alarme chez vous, une caméra, etc. Ce que propose Amazon avec Ring est vraiment
super,
pas mal.
Vraiment.
300 euros, on peut avoir un bon pack, on peut rajouter plein de choses.
Oui.
Les accessoires coûtent pas cher et l'application est vraiment bien faite. Maintenant, si vous avez envie de sécuriser votre maison, de vous rassurer, d'avoir plein de choses, de la télésurveillance, l'offre de Kiara, elle est pas mal.
Alors, la plupart des gens qui vont se tourner vers Kiara, ils ont un appartement, donc l'offre de base suffit largement à couvrir les besoins de base. Mais effectivement, ce qui est intéressant chez Ring, qui est une filiale d'Amazon, c'est qu'ils sont meters. Ça veut dire que demain, si je veux mettre une deuxième caméra, ou une troisième caméra, ou une quatrième caméra pour le jardin, pour un carillon pour pouvoir sonner, avoir un interphone.
Il y a tout un écosystème.
Une sirène extérieure.
Je ne suis pas obligé de prendre une Ring. Je peux mettre un écosystème compatible Meta. Et là, que ce soit Verisure ou nos amis de chez Kiara, ça me gêne puisque c'est le nom de ma fille. Donc, prendre le nom de ma fille, ça me gêne un peu.
Oui. Mais, c'est pas la même
orthographe. C'est pas facile à retenir, je trouve. Ouais. J'ai encore du mal. Alors que j'ai écrit
un super nom facile à reconnaître.
Donc, si on veut rajouter une caméra ou on veut rajouter un objet supplémentaire, il faut rester dans l'écosystème de la marque, ce qui est un peu dommage. Alors que si on va du côté de vrais constructeurs qui ne font pas forcément du service, et c'est vrai que c'est important chez eux, on peut panacher, mettre un peu de Netatmo, un peu de Arlo, un peu de Ring, sans problème, puisque c'est metteur et c'est interopérable.
Oui, c'est ça. Ouais. Bon, intéressant. Toujours chez Free, une évolution aussi de la Freebox Pop. On parle beaucoup de Wi-Fi 7. Et bien voilà, la Freebox Pop va accueillir le Wi-Fi 7.
Surprise, on a une nouvelle Freebox, deux nouvelles Freebox en 3 mois. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de Free. Donc cette nouvelle Freebox Pop, elle ressemble à l'ancienne Freebox Pop. Elle a le même prix que l'ancienne Freebox Pop. Elle a deux nouveautés. La première, c'est un bouton on-off. C'est apparu pour la première fois avec la Freebox Ultra. C'est dû justement aux économies d'énergie, à la responsabilité. Personnellement, je ne suis pas sûr que ça change quelque chose. Je pense que c'est un petit peu du bullshit, cette histoire d'éteindre sa box le soir pour économiser l'électricité. Mais bon, en tout cas, Free fait ce geste-là. Et la deuxième nouveauté, c'est l'arrivée du Wi-Fi 7 avec une subtilité importante, pas de bande 6 GHz. Donc, c'est quand même le point fort du Wi-Fi 7 avec le Wi-Fi 6E, on l'avait vu aussi avant. Donc, on est sur du Wi-Fi 7, sur du 2,4 et du 5 GHz. Donc, l'idée, c'est plus de proposer une box meilleure pour ne pas avoir de regrets en prenant la Freebox Pop. Mais on n'est pas sur une box aussi rapide que la Freebox Ultra si on veut vraiment de super débits et des téléchargements. J'ai fait du 4 Go par seconde avec un iPhone, avec un Galaxy S24 Ultra sur
oui, qui est donc compatible Wi-Fi 7.
Wi-Fi 7 en 6 GHz.
T'as fait du 4 gigabit en speed test ?
Ouais, en Wi-Fi.
Waouh.
C'est pas mal, hein.
ça veut dire que tu avais au moins, tu avais du 8 gigas en down et en up.
J'ai pas pu mesurer en Ethernet parce que j'ai pas d'ordinateur avec un port Ethernet okay. Mais j'imagine que je suis au-dessus des 4 si j'arrive à faire du 4 en Wi-Fi. Donc en tout cas, la Freebox Ultra est plus impressionnante sur ces débits-là. Je pense même que il est possible que le Wi-Fi 7 de la Freebox Pop soit moins rapide que le Wi-Fi 6E de la Freebox Delta ou de la Freebox Ultra.
Oui, parce qu'il a la bande supplémentaire.
Il y a du 6 GHz. Ouais. Maintenant, sur la bande 2,4 et sur la bande 5 GHz, ça sera plus rapide. Ouais. Hein, il va y avoir une vraie amélioration, donc c'est plutôt cool.
Si c'est un vrai Wi-Fi 7, en tout cas labellisé Wi-Fi 7, on peut peut-être accueillir plus d'appareils.
Oui,
il y a peut-être aussi une stabilité du Wi-Fi qui est meilleure.
Et il y a aussi l'idée que quelqu'un qui s'abonne à la Freebox Pop ne va pas changer de box dans un an. Il y a des gens qui ont la Freebox Révolution, se vend encore aujourd'hui. Je connais plein de personnes, je leur dis, mais pourquoi tu restes sur la Freebox Révolution, change. Mais moi, je la trouve super, cette box, elle marche bien, je changerai le jour où elle meurt. Donc, sur les box, les gens ne changent pas aussi vite que sur un téléphone. Donc, c'est bien de se dire que voilà, peut-être que le prochain iPhone, l'iPhone dans 2 ans, aura du Wi-Fi 7, que le Wi-Fi 7 sera la norme sur tous les appareils, que la PS6 sera Wi-Fi 7, je ne sais pas. Bah, c'est bien de se dire que la Freebox Pop, dès aujourd'hui, elle est compatible. C'est une vraie avance sur les autres opérateurs.
Le 15 Pro Max, il est Wi-Fi 6E.
6E.
Ouais, tout juste. Et Apple est très en retard, de manière générale.
Je crois que c'est que le Pro qui est Wi-Fi 6E.
Le 15 et Wi-Fi 6E. Le Mac est passé 6E également l'année dernière.
Ouais, le MacBook Air, ça date de 2 semaines, le Wi-Fi 6E.
Timidement, et encore, les benches ne sont pas géniaux. L'optimisation du 6E sur Mac, elle n'est pas au niveau de Windows, ni de l'iPhone d'ailleurs. L'iPhone est plus rapide en 6E que le Mac.
Et ça, c'est quoi? C'est un problème? C'est pas un problème de hardware, c'est un problème de logiciel. C'est ça.
Sur la bourre.
C'est étonnant, hein, Apple n'a jamais été le. C'est étonnant, c'est fou parce que Apple a inventé le Wi-Fi carrément.
Airport.
C'est-à-dire que le premier Mac qui était connecté, ça s'appelait Airport. Ça, c'était un truc de fou quand même.
Ah, j'ai vu ça pour la première fois, j'ai dit, mais il est où le
haut, la houppe.
Non, mais c'est incroyable, c'est une vraie claque. Hein. On oublie à quel point le Wi-Fi a changé notre vie. Ouais. Hein. Mais c'est dingue, c'est qu'aujourd'hui,
Non.
Ils suivent, on va dire.
Hein. Ils ont abandonné toute la division routeur.
Ouais, ils avaient des super routeurs, super simples à installer. Comparé. En France, j'ai mis le marché avec les box, mais aux États-Unis, c'était très populaire, effectivement. Ils ont inventé un routeur avec un disque dur intégré, Time Capsule, qui permettait de sauvegarder tes Mac à distance. C'est une super idée. Aucun constructeur de routeur n'a embâté le poche. J'étais sûr.
Après, il y a le cloud qui est arrivé. Ils sont
dit,
bon, finalement,
toujours pas sauvegarder son Mac sur le cloud. Non. Ouais. Finalement, ça aurait un intérêt. Moi, je fais très peu de sauvegarde de mon Mac et un jour, ça va se retourner contre moi, je le sais. Hein. Donc,
toujours les cordonniers qui sont le plus mal chaussés.
C'est toujours, exactement. Mais c'est toujours c'est au moment où ça nous arrive qu'on se dit, bon, je le savais. Mais bon, c'est vrai que ça aurait du sens, en tout cas, que Apple se relance un peu sur le Wi-Fi, aussi bien pour améliorer ses produits que pour concurrencer Google, qui maintenant a une division routeur. Mais oui, ils sont pas très très forts là-dessus. J'espère que le Wi-Fi 7 arrivera vite, qu'ils vont pas attendre 3 ans.
Ouais. Logiquement, l'iPhone 16 devrait l'adopter, mais c'est vrai qu'ils sont en retard par rapport à Samsung, qui l'adopte déjà. Et encore, c'est même pas sûr, on va voir. Mais ce qui est intéressant avec le Wi-Fi 7, effectivement, c'est que, ou même le 6E, hein, c'est que au-delà de la puissance, c'est vrai qu'on est obsédé par la bande passante. Aujourd'hui, c'est le problème des box, c'est que lorsque vous êtes dans les grandes métropoles et dans les grandes villes notamment, vous allumez votre Wi-Fi, vous apercevez qu'il y a autour de vous, il y a 40, 50 box. Surtout dans dans les grands territoires urbains. Et le problème de ces réseaux Wi-Fi, c'est qu'ils sont complètement saturés. Donc, vous avez beau à monter en puissance, c'est saturé. C'est-à-dire la bande de fréquence...
Alors, ça va marcher très, très proche mais quand tu t'éloignes, tu as des parasites autour.
Exactement. Donc, l'enjeu, c'est de disposer de plus de bandes de fréquence. Et le 6E et le 7 offrent de la fréquence supplémentaire à condition d'avoir la bande de 6 GHz que n'a pas la Pop. Donc, c'est un peu dommage.
Vous connaissez peut-être Lionel Paris, qui est un spécialiste de tous ces sujets-là, et qui nous disait qu'il n'y a pas plus tard que... Je crois que c'était la semaine dernière dans De quoi je me mêle, qui nous expliquait qu'ils sortent un système Orbi Wi-Fi 7 qui monte à 27 gigabits.
Imagine.
27 gigabits par seconde, quoi.
C'est plus rapide que le fil.
Alors même si tu divises par deux.
Oui, c'est ça, mais quand on compare les normes et la réalité, c'est toujours un peu rigolo. Oui. C'est que.
Non, mais même t'arrives à aller, admettons, tu tombes de 27 à 10 gigabits. 10 gigabits en Wi-Fi.
Qui a 10 gigabits à la maison déjà?
Qui a 10 gigabits à la maison, quoi.
Il y a aucune connexion Internet aujourd'hui.
Qui te permet d'avoir 10 gigabits.
Je suis pas loin, du coup. Je ne sais pas comment ça se fait, mais j'appelle.
Voilà, mais déjà, il faut avoir la box qui te permet d'aller au-delà du gigabit, s'ils ne sont pas nombreux. C'est l'argument de l'Ultra.
Donc, tu es passé en Freebox Ultra.
Oui, je l'ai testé, en fait. Je vais repasser à la Delta. Ils m'ont prêté l'équipement, ils vont le reprendre. J'ai pas été suffisamment convaincu pour
pouvoir... Tu n'as pas fait suffisamment d'enfants pour te prendre la bande de fréquence.
Non, mais c'est vrai qu'après, c'est la question, c'est la question qu'on se pose. Ça sert à quoi d'avoir 8 gigas? On en a parlé souvent ici. Moi, j'avais posé la question à Xavier Niel, hein, qui en fait vraiment son argument de vente. 8 gigabits en down et en up. Lui, il imagine que demain, on aura besoin de cette puissance-là. Mais pourtant, Dieu sait si on est quand même un peu techos, hein, et on va dire geek.
Oui.
Moi, j'ai 1 giga en down et en up, et ça suffit mais
largement,
pour tous mes usages.
Et
on est plusieurs à la maison à taper dessus.
Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas les équipements. C'est qu'elle est sympa, cette Freebox, avec du 8 giga symétrique, mais en fait, il n'y a que mon S24 Ultra qui est capable de vraiment exploiter le maximum. J'ai l'usage le plus pratique
que je verrais d'avoir. Mais avec ton iPhone, t'es à quoi? T'es 1 giga, en fait?
J'arrive à taper 2,5 en 6.
Ah, quand même.
Ouais, non, c'est pas mal. Hein. Bah, c'est ça. Et comme tu le dis, plus qu'avec le Mac. Avec le Mac, je ne tape pas les 2,5. L'iPhone s'en sort mieux que le Mac sur du Wi-Fi 6E. Mais ce qui me dérange, c'est que c'est sympa d'avoir ces débits-là sur mon iPhone ou les 24 Ultra. Mais ça me sert à quoi?
Non, ça sert à rien.
Ce qui m'intéresserait, par contre, c'est la PS5. Quand il y a un GTA qui va sortir avec 200 gigas, j'aimerais aller vite. Mais le port Ethernet de la PS5, il est limité à 1 giga.
Donc, t'es mort.
Donc, il n'y a pas de. Et le Wi-Fi, je ne veux pas télécharger un jeu en Wi-Fi. Il n'y a même pas de Wi-Fi 6. Elle n'est même pas Wi-Fi 6, la PS5, je crois. Ou alors, au maximum, elle est 6, mais elle est ni 6 ni 7.
C'est-à-dire qu'au niveau réseau, elle est obsolète.
Bah, dans tous les cas, je suis limité par la limite hardware de la console. J'espère que la future PS5 Pro aura un port 2,5, 5, j'en sais rien. Je ne suis même pas sûr que ça arrive. Et même les ports à l'arrière des box, c'est rare qu'ils dépassent. La Freebox Pop, elle ne dépasse pas les 1 giga.
Et puis le réflexe, on en parlait d'ailleurs, tu parlais de Lionel, on en parlait il n'y a pas très longtemps, Lionel Paris, c'est que le réflexe des utilisateurs, la plupart des box, vous savez où ils sont installés, les box dans les appartements en France?
Dans des armoires.
À l'entrée des appartements.
Ouais, maintenant,
Les armoires électriques. Pourquoi? Parce que historiquement, c'est là qu'arrivait le téléphone.
Ouais. La fibre et le téléphone.
Et maintenant, les nouveaux bâtiments, il y a un port fibre avec la Freebox Ultra, elle peut se visser au mur. Elle est justement avec les tailles standards des nouveaux bâtiments. Ça m'amuse. Moi, j'ai un vieil appartement où c'est pas du tout comme ça. Mais
généralement, ta box, tu la mets dans l'entrée. Donc le Wi-Fi, il rayonne. Donc il rayonne en cercle, donc ça veut dire qu'il rayonne la moitié chez ton voisin et la moitié chez toi. Donc déjà tu perds 50%.
Oui, c'est ça, ouais. Tu arroses très bien le couloir en fait.
Le couloir c'est très utile. Et au-delà, donc tu dis je vais mettre un répéteur. Il ne faut pas mettre un répéteur parce que le répéteur ça n'augmente pas la bande passante.
Et ça la divise par deux en général.
Donc voilà, il y a beaucoup d'éducation et d'évangélisation à faire autour des enjeux du
Wi-Fi. Et oui, si on en parle souvent dans De quoi je me mêle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pédagogie sur ce sujet, tu as raison. Alors, ce De quoi je me mêle est terminé.
Déjà,
si vous êtes avec nous, ben oui. Mais en revanche, si vous êtes avec nous en audio, si vous êtes en podcast, le petit module, le bonus vous attend toujours avec Cédric et Nicolas. Merci beaucoup, messieurs. C'était cool.
Avec plaisir.
De passer cette petite heure en votre compagnie.
Je reviens avec le Vision Pro la prochaine fois.
J'aimerais bien. J'aurais aimé l'avoir aujourd'hui, mais bon.
Parce que moi, je te reconnais plus en Vision Pro.
En tout cas, merci de nous suivre. Bon week-end à vous toutes et à vous tous en audio, vidéo, vous le savez de quoi je me mêle. Et le petit module bonus qui vous attend, c'est une exclusivité podcast, vous le savez, depuis quelques semaines maintenant. Merci de nous suivre, à très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.